Donc, on commence cet après-midi avec une première table ronde sur les questions d'esclavage, de racisme et de colonialisme. Et donc, nous recevons, c'est la première table ronde, en plus, c'est assez chargé, donc c'est pour ça que j'ai insisté pour qu'on commence. Nous recevons tout d'abord Dominique Taffin, conservatrice et directrice de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage à Paris.
Bonjour.
Bonjour. Lorella Issa-Prinson. Vous êtes conservatrice, directrice du Memorial Act à Pointe-à-Pitre. Christine
Bonjour.
Chivalon, bonjour. Christine Chivalon, vous êtes bien connectée?
Oui, elle est là.
Ah, voilà. Donc, bonjour, vous êtes géographe, anthropologue au CNRS. Vous avez travaillé sur la muséographie de l'esclavage et vous avez notamment publié L'esclavage du souvenir à la mémoire chez Cartala. Si je ne fais pas
Merci.
erreur. Nous avons également Nicolas Bancel, historien à l'Université de Lausanne, et qui est surtout célèbre pour avoir été commissaire de l'exposition sur les os humains. Bonjour Nicolas Bancel, est-il des nôtres?
Oui, je suis là.
Ah,
Bonjour.
bonjour. Et enfin, Sarah Ligné, conservatrice. Alors, vous êtes rattaché au musée du Quai Branly, est-ce que mon
C'est
information est
ça.
bonne? Oui. Et vous avez notamment été commissaire d'exposition sur les peintures des lointains au Quai Branly, justement.
Merci, merci pour l'organisation de ce colloque. Je serai assez brève puisque l'intitulé de cette table ronde est extrêmement vaste et que cela serait une gageure de traiter, de pouvoir couvrir l'ampleur des questionnements qui sont liés. C'est une discussion qui est une ramification d'un travail beaucoup plus vaste, qui interroge une longue période historique, plus de 4 siècles où différentes formes de contrôle et de domination ont été exercées par des États européens sur d'autres populations ou territoires d'une large partie du monde, au cours desquels sont mis aussi en place des systèmes d'asservissement humain qui ont conduit, dans le cas de l'esclavage colonial, à la déportation de plus de 12 millions d'esclaves entre le 16e siècle et le 19e. 19e siècle. Ce sont des systèmes aussi qui se sont nourris d'abord de la construction de catégories raciales, puis de leur hiérarchisation et qui ont laissé des conséquences durables sur les sociétés. La reconnaissance de ces faits historiques, leur place dans les mémoires collectives est le fruit d'un long cheminement. Un certain nombre d'initiatives ont pu avoir lieu au cours de ces dernières décennies pour approfondir la connaissance historique, interroger les récits, mais ce sont des réalités historiques qui continuent à susciter, dont la mémoire continue à susciter de vives controverses. Dans le cas de l'esclavage, on a aussi, c'est l'objet d'une loi mémorielle en France, et c'est l'occasion de rappeler que nous sommes là en 2021, 20 ans après la loi qu'avait défendue la députée Christiane Taubira et qui a fait reconnaître l'esclavage comme crime contre l'humanité. Et donc, dans cette perspective aussi commémorative, j'aimerais ouvrir cette table ronde par une perspective historique à partir de cette question de l'absence peut-être ou la visibilité quelque peu restreinte de ces sujets qui sont énoncés dans l'intitulé de la table ronde, largement absents du champ des expositions il y a encore quelques décennies, et poser cette question de la manière dont ils se sont fait une place. Je laisserai peut-être la parole d'abord à Lorella Rinson pour inscrire aussi le Memorial Act, qui est finalement une jeune institution dans cette perspective historique.
Oui, merci beaucoup Sarah. Donc effectivement, le Mémorial est une institution, donc un peu plus de 5 ans. Le MACT a été inauguré le 10 mai 2015 et a ouvert au public le 7 juillet de la même année. Donc il ouvre avec une appellation qui est celle de Centre caribéen d'expression et de mémoire de la traite et de l'esclavage. Et donc c'est le premier et unique établissement en France qui est spécifiquement dédié à ces mémoires. Donc le MACT, en réalité, il s'inscrit dans cette chronologie de faits, d'impulsions, de volonté individuelle et de volonté collective comme tu l'as dit, Sarah. Et c'est à la fois une aspiration locale et une ambition nationale. Alors, une aspiration locale, parce que le MAC est l'aboutissement d'un désir ancien, en fait, qui est profondément ancré dans la société guadeloupéenne. Et ce désir s'est exprimé par des voies multiples depuis au moins les années 90. Donc, on a des mouvements associatifs, artistiques, politiques, comme le Comité international des peuples noirs, qui est à l'origine de ce projet, qui est présidé, qui était présidé à l'époque par un militant nationaliste, qui est Luc Prenet. Et donc, il y a un lien entre ces courants politiques nationalistes et cette thématique des mémoires de l'esclavage. Ces réflexions sont aussi portées par une sociologue du CNRS, Danielle Debel-Gisler, qui est présidente du comité local pour le programme UNESCO, la route de l'esclave, donc le comité local en Guadeloupe. Et les actions de ce comité vont permettre en 1994 l'inauguration d'une maison de l'esclavage sur une habitation, l'habitation Crâne. Et puis, c'est la création d'un parcours par le département d'une route de l'esclave qui va relier les sites patrimoniaux du territoire. 10 ans plus tard, en 2004, donc, le Conseil régional de Guadeloupe va, lui, se faire l'écho de cette ambition en inscrivant la création de cet établissement culturel que va devenir le Memorial Act à l'ordre du jour de ses délibérations. Et donc, c'est en 2004 que débute la gestation de ce projet. Donc ça, c'était pour ce qui est de l'aspiration locale, mais parallèlement, évidemment, il y a aussi une ambition nationale qui est portée par de nombreux acteurs culturels, scientifiques, intellectuels, politiques, et dont certaines figures de proue hein, sont originaires des différents territoires des Outre-mer. Tu as mentionné la loi de 2001, mais elle va permettre de donner lieu justement à la mise en place en 2004 du Comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage, qui va être présidé d'abord par l'écrivain guadeloupéen Maryse Condé, puis par la politologue réunionnaise Françoise Vergès. En 2005, ça va être le lancement d'une mission de préfiguration qui va être confiée au philosophe martiniquais Édouard Glissant, du Centre national pour la mémoire des esclavages et de leurs abolitions. Et puis, dans les grandes villes, parallèlement, dans les grandes villes dont l'économie s'est construite sur cette... sur ce commerce, de nouveaux projets muséographiques aussi vont émerger pour faire redécouvrir ce passé. Donc à Nantes, le château des musées des Ducs de Bretagne et le mémorial qui va l'accompagner, à Bordeaux, les nouvelles salles du musée d'Aquitaine, à La Rochelle, le musée du Nouveau Monde. Donc cette question en fait d'un équipement national dédié à cette histoire, elle devient récurrente aussi au fil des commémorations annuelles qui vont être instituées dès 2006, avec cette journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions. En 2011, le ministère de la Culture va lancer un programme « Patrimoine de la traite négrière et de l'esclavage » à l'initiative justement de Françoise Vergès. Et en 2012, ce programme va aboutir à une collaboration avec le musée du Louvre à l'occasion de la triennale d'Okuen Ovesor. Et ce programme va s'appeler « L'esclave au Louvre ». Donc, on a tout un calendrier, je ne vais pas faire toutes les dates, mais la construction du MAC, en fait, s'inscrit dans ce calendrier-là, dans cette chronologie-là. Et là, on en est à la période où le MAC, en fait, qui a fonctionné pendant 4 ans, en réalité sans véritable statut, à partir de 2019, va s'institutionnaliser et devenir un établissement public. Et donc, le MAC a catalysé toutes ces énergies multiples qui se sont déployées sur le territoire par tous ces acteurs différents. Et il a symbolisé, en fait, aussi l'aboutissement de tous ces travaux et le fruit d'efforts et de volontés conjuguées. Alors, donc je vais peut-être prendre une minute pour juste vous passer quelques images parce que je ne suis pas sûre que tout le monde laisse. Donc, je vais me réessayer à cet exercice que je ne maîtrise pas du tout, de partager... Voilà, juste pour vous montrer le MAC et cette architecture que tout le monde ne connaît pas forcément, mais pour vous situer donc cet établissement qui est à Pointe-à-Pitre et qui donc propose une salle d'exposition de 1700 m², une salle permanente de 1700 m² et un site mémoriel sur lequel se déploie un certain nombre d'activités.
Merci Lorella pour cette présentation. Toujours pour rester sur cette perspective historique, je voudrais laisser la parole à Dominique Taffin à propos de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, qui est aussi une jeune institution qui n'est pas un centre d'exposition, mais comment se positionne-t-elle en termes de cette question de l'exposition de l'esclavage. Et je voudrais aussi rappeler par ailleurs que Dominique Taffin est conservatrice et à œuvrer à la fois dans le domaine des archives et des musées. Et donc, cette question de l'exposition, aussi en tant qu'organisatrice d'exposition dans ces institutions, est une question qu'elle a pu observer au fil des années de ses expériences dans ces institutions.
Oui, merci beaucoup, Sarah. De fait, c'est vrai que en fait, cette question hein, de l'exposition de l'esclavage et puis plus largement, effectivement, de la colonisation, c'est une question en fait, qu'on doit nécessairement aborder en fait, par ces différentes approches, à la fois les approches institutionnelles, mais aussi les approches, et ce que Lorella disait tout à l'heure, évidemment, de ce qui est venu des associations, du mouvement militant, de la société civile. Des initiatives aussi hein, de collectifs de chercheurs. Et bon, je pense que Nicolas abordera évidemment tout à l'heure la CHAC, donc je ne vais pas parler de cela. En revanche, voilà ce que je pense important en fait, de souligner déjà dans un peu ce panorama historique, c'est effectivement d'une part une question un peu de la longue durée qui va permettre aussi de comprendre finalement pourquoi au cours des 30 dernières années, en fait, enfin, de voir les accélérations ou les points où les accélérations ne se font pas peut-être autant qu'on le voudrait, parce que ben, justement, ça vient de loin. Cette année, ce seront aussi les 90 ans, si je ne me trompe. Oui, c'est ça, de l'exposition coloniale. Et voilà, d'une première façon d'aborder la question de l'esclavage au sein, évidemment, d'un dispositif de promotion coloniale, comme c'était dans le cas du musée de la France d'Outre-mer. Et en 1935, avec l'exposition consacrée justement au tricentenaire du rattachement des Antilles françaises, où la thématique de l'esclavage est un petit peu plus présente, mais évidemment, dans une perspective finalement qui va perdurer, hein, qui est de celle d'évoquer. Disons de façon assez euphémisée la question de l'esclavage et de mettre plutôt évidemment l'accent sur la question de la République abolitionniste. Évidemment, c'est un discours qui s'est transformé, mais reste durable, n'est pas totalement faux, bien évidemment, mais il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a pas eu une abolition de l'esclavage avec les révolutions républicaines, mais évidemment, ça ne résout pas toute la question. Alors, d'autre part, donc cette dimension historique et de longue durée aussi avec cette étape de 1948, hein, avec les discours mémorables de Schœlcher ou de Monnerville au Panthéon à l'occasion de ce centenaire de l'abolition de l'esclavage. Maintenant, voilà, évidemment, les choses ont pas mal bougé aussi. Ce que disait Lorella du côté de la Guadeloupe, j'avais pas mal travaillé, notamment à l'occasion du colloque organisé dans le cadre de ce programme hein, sur le patrimoine de l'esclavage qu'elle évoquait, donc c'était en 2011 au musée du Quai Branly, sur la question des expositions, et Christine Chivalon aussi en sait quelque chose de son côté, sur la façon dont les musées, mais aussi les expositions temporaires, traitaient de l'esclavage aux Antilles. Pour ma part, j'avais travaillé sur la Martinique, et où on voyait évidemment des décalages assez importants finalement entre l'intention affichée, une intention à la fois éducative, de mise au point historique, et parfois, mais souvent très euphémisante, et évidemment, qui du coup pouvait paraître finalement très détachée et très froide, alors que le public principal à qui il s'adressait, c'était un public de personnes en fait qui étaient environnées par les traces de l'esclavage et dont la culture aussi est forgée largement évidemment sur cette partie-là. Et puis ce qui se passe du côté donc de la France hexagonale, où là aussi, ce sont des démarches d'associations au départ qui sont reprises par des collectivités. On parle évidemment de Nantes dans les années 80. Et de voir ce qui se passe entre 85, le tricentenaire du Code noir, où finalement les souhaits de faire quelque chose sont extrêmement mal accueillis par les autorités. Et les années 90, où commence effectivement à émerger cette mémoire, avec notamment la grande exposition fondatrice des Anneaux de la mémoire en 92, hein, qu'il ne faut évidemment pas négliger. Voilà, donc ça, je pense que c'est vrai que ces différents jalons sont intéressants aussi pour compléter un peu ce panorama de dates qu'a donné Lorella tout à l'heure. Alors la fondation maintenant sur cette... disons, dans ce paysage, hein, comme rappelait Sarah, donc, nous ne sommes pas une institution avec des collections, ni même dotée d'un service qui va s'occuper de créer des expositions lui-même. Nous avons... par contre, avec l'expérience justement aussi acquise d'à la fois certaines structures qui ont déjà travaillé beaucoup sur ces questions, nous avons plutôt pour objectif en fait de vraiment fédérer justement ces initiatives qui ont été prises, et notamment donc les institutions patrimoniales. Et là, quand je dis patrimoniales, c'est pas seulement les musées. Je crois que justement c'est une question qui va venir tout à l'heure. Finalement, est-ce que exposer l'esclavage, c'est l'unique façon justement de faire passer, est-ce que c'est seulement par les musées, mais aussi les archives, bon, je prêche pour ma chapelle peut-être un peu, les bibliothèques, enfin donc beaucoup de lieux en fait ou de tiers-lieux qui peuvent aussi évoquer, montrer, donner à voir l'histoire de l'esclavage et de ses héritages. Donc nous, ce que nous souhaitons faire et que nous commençons à faire à travers donc ce réseau que nous appelons Patrimoine déchaîné, c'est véritablement de mettre en commun en fait donc les expériences, donc de favoriser le partage d'expériences. On l'a fait là dans un tout premier webinaire la semaine dernière. C'est aussi de travailler de façon assez concrète, justement pour répondre à des questions qui vont être abordées tout à l'heure, forcément très rapidement vu la durée de cette table ronde, sur la façon même dont le narratif, la narration peut se mettre en place dans une exposition, la question de la distance critique qu'il peut y avoir, ou au contraire de l'approche totalement sensible ou empathique dans l'exposition, la question même des mots, hein, tout simplement, parce que là, ces derniers mois, il y a eu quand même pas mal de questions parfois polémiques, hein, sur l'usage de certains mots du vocabulaire historique du champ de l'histoire de l'esclavage. Donc, en fait, toutes ces questions, effectivement, elles se posent à nous, et on commence à travailler aussi dessus avec donc des partages d'expériences. Notre but étant de favoriser la mise en place de manifestations, d'expositions, aussi de conférences, de choses plus éphémères et plus, disons, multimédia, aussi pour donc porter cette question de l'histoire de l'esclavage et ne pas, disons, simplement la réduire à, disons, un simple discours, l'accent sur les victimes, et il n'y a que comme ça qu'il faut faire, ou l'accent sur l'aspect héroïque, pas cantonné à la question des abolitionnistes, mais aussi de toutes les personnes qui ont lutté contre l'esclavage, et évidemment de se remettre, du coup, de redonner la parole aussi, évidemment, aux personnes directement concernées, donc mises en esclavage.
Merci. Alors, la question de l'exposition, elle pose aussi l'articulation entre la recherche et la diffusion des connaissances. Dominique évoquait l'achat. Je me tourne donc vers Nicolas Bancel pour cette question autour de la recherche et la manière dont on peut réfracter de nouvelles perspectives de recherche dans l'exposition. Nicolas Bancel, vous aviez participé en 93 à l'exposition Images et colonie sur la question de l'iconographie de la propagande coloniale en Afrique, et puis plus récemment aussi, comme il a été rappelé, autour de cet important programme de recherche sur les zoos humains qui a été diffusé, vous avez diffusé par différents biais, pas seulement par le biais exposition. Il y a eu l'ouvrage, il y a eu l'exposition qui a été présentée au Musée du Quai Branly en 2011, puis aussi dans dans d'autres lieux. Mais il y a eu aussi des productions audiovisuelles. Donc, par rapport à ce médium exposition, en quoi est-ce que, quelle singularité vous voyez dans ce médium par rapport à d'autres canaux de diffusion de connaissances, de diffusion de vos recherches?
Alors d'abord, vous rappelez des choses qui ne nous rajeunissent pas, hein, 93, mais bon, tant pis. Je tiens à préciser d'une part que je ne suis pas commissaire scientifique, j'ai été conseiller scientifique sur l'exposition du Quai Branly, donc c'est pas grave. J'ai été par ailleurs commissaire sur une exposition zoo humain qui a été présentée à l'étranger, donc je peux quand même en parler. Alors, articulation, recherche et diffusion des connaissances, c'est une question difficile en fait, parce que à l'université, la manière dont on a d'objectiver la valeur des personnes est quand même encore très centrée sur des publications qu'on appelle scientifiques, hein, donc des publications qu'on va faire dans des revues indexées internationales, dans des collections d'ouvrages qui sont reconnus dans le milieu, etc. Mais finalement, la question de la vulgarisation et de la diffusion reste un peu annexe. Alors, elle est maintenant, je dirais, proposée dans les évaluations, mais ça reste quand même, je dirais, un petit peu la cinquième roue du carrosse dans l'université. Et je pense que c'est dommage parce qu'il y a des sujets comme celui que vous venez d'évoquer, celui des zoos humains et plus généralement l'histoire de l'esclavage ou l'histoire coloniale. Alors, moi, je vais plutôt parler de l'histoire coloniale parce que je connais beaucoup mieux cette période-là. Je pense que c'est dommage parce que, à mon sens, les chercheurs ont un vrai rôle social aussi à jouer dans la diffusion des connaissances et donc dans leur mise à la disposition du public d'un certain nombre de contenus qui leur soient accessibles. Si je prends l'exemple du programme Zoo Humain, en fait, ce programme a démarré il y a maintenant plus de 20 ans, en 2000. Il a démarré par une série de colloques qu'on avait organisés avec le GDR Anthropologie du Corps, donc du CNRS. Et en fait, ça, on a fonctionné du point de vue de la recherche comme une espèce de rhizome. On pense toujours que l'ACHAC est une espèce de machine de guerre avec 50 personnes à son chevet pour diffuser et exploiter les connaissances. En fait, pas du tout. En fait, on a une toute petite structure, mais on fonctionne par rhizome. Et quand vous regardez, par exemple, le programme Zoo Humain, on a plus de 60% en fait des gens qui ont travaillé dans le programme Zoo Humain qui viennent de l'étranger. Parce qu'il se trouve que sur cette thématique des exhibitions ethniques, hein, donc la manière de présenter des hommes venus d'aires extra-européennes, eh bien, par exemple aux États-Unis, il y avait des chercheurs qui avaient déjà travaillé sur cette question-là dans le cadre des États-Unis. Si vous observez aussi ce qui se passe au Japon, parce que c'est un phénomène mondial, hein, ça ne touche pas évidemment seulement la France, ce phénomène d'exhibition ethnique touche toute l'Europe, les États-Unis, le Japon. Vous aviez aussi des chercheurs japonais et un chercheur français qui travaillaient sur cette question. Donc, on fonctionne en rhizome. Après, on voit aussi qu'un programme comme Zoo Humain, c'est un programme qui évolue constamment. Il ne vous a pas échappé que le premier livre, il a été publié en 2002, et il y a eu deux autres versions depuis. Pourquoi deux autres versions? Parce qu'en fait, les travaux ont continué. D'abord, des étudiants se sont emparés du sujet, donc dans des secteurs plus localisés, plus spécialisés, mais ils ont fait avancer la connaissance sur cette question. Et puis, d'autre part, un peu partout en Europe, cette question-là est devenue une question de recherche. Je vois, par exemple, qu'aux Pays-Bas, en Allemagne, on a des travaux qui sont sortis spécifiquement sur cette question entre 2000 et aujourd'hui. Donc, il faut tenir compte de tous ces travaux et puis essayer, là encore, de faire des liens avec la recherche internationale. Alors maintenant, comment diffuser? Vous l'avez un peu dit, je pense que le programme Zoo Humain est un très bon exemple. Parce que vous avez effectivement cette grande exposition qui a été organisée au Quai Branly. Vous avez une exposition pédagogique aussi que nous avions réalisée avec un livret qui a été mis à la disposition d'un certain nombre d'établissements et d'institutions publiques, qui a été traduit d'ailleurs en anglais. Le livre lui-même d'ailleurs est traduit en plusieurs langues. Zoo Humain, la dernière version, est traduite en allemand, elle est traduite en anglais, elle est traduite en italien. Et vous l'avez mentionné aussi, il y a des films, des documentaires, il y en a deux, hein, un qui a été élaboré entre 2004 et 2005, et un autre plus récent qui s'appelle Sauvage, qui était, dans mon souvenir, il est sorti il y a 4 ans. Voilà, ce qu'on peut constater, c'est que même une petite structure bien organisée peut arriver en fait à diffuser un corpus de savoir comme celui sur les exhibitions ethniques. C'est possible. C'est possible. Simplement, ce qu'on est obligé de constater, on parlera ensuite peut-être des formes de mobilisation, des formes d'exposition, mais là, je ne peux pas monopoliser trop la parole parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Après, ce qu'on constate, c'est que la question coloniale, c'est une question qui aujourd'hui est encore très délicate. Très délicate, d'une part parce que je pense qu'il y a une sociologie, on va dire, complexe autour de cette question, du fait que cette histoire est récente, du fait que, eh bien, après la guerre d'Algérie, comme vous le savez, on a eu un peu moins d'1 million de rapatriés pieds noirs qui sont installés en France, que nous avons également quelques dizaines de milliers de harkis qui également se sont installés en France, d'ailleurs ont été largement marginalisés, mais peu importe. Et puis vous avez toutes les immigrations postcoloniales. Évidemment, tous ces gens-là n'ont pas la même mémoire, la même histoire à raconter. Et il y a un caractère, je dirais, inflammable à cette question coloniale qui a une tendance tout à fait évidente à polariser d'une manière extrêmement puissante les positions. Que ce soit d'ailleurs à l'intérieur du champ historique où on a des controverses qui sont assez virulentes et qu'on ne trouve pas pour d'autres sujets. Mais ça concerne, je dirais aussi, le champ plus général du débat public et intellectuel. Je donnerai un seul exemple. Tout le monde a en tête la récente polémique sur l'islamo-gauchisme. Alors, on a l'impression que c'est très loin de la colonisation, mais en fait, que dénoncent les personnes qui se sont groupées pour dénoncer l'islamo-gauchisme? C'est en fait tout un ensemble, tout un corpus de travaux qui partent des subaltern studies depuis les années 1980 jusqu'aux post-colonial studies, aux globalization studies aujourd'hui, et qui avaient pour objectif, avec des fortunes diverses, mais qui avaient pour objectif d'essayer de comprendre des phénomènes contemporains des sociétés occidentales à partir de l'histoire de l'Empire, sans vouloir évidemment tout expliquer, hein, mais en prenant en compte cette dimension et en essayant de comprendre si des dynamiques se prolongeaient de la colonie à la post-colonie. C'est donc plus seulement une perspective, on va dire, de rupture des chronologies canoniques, hein, parce qu'on sait que, par exemple, dans les États colonisés, on est bien d'accord, tous les historiens sont bien d'accord pour dire qu'entre la colonisation et la post-colonie, ben, il y a forcément des ponts, il y a des liens, il y a des processus qui se poursuivent, que ce soit dans la trajectoire des États, dans les politiques qui sont économiques, sociales, qui sont menées, enfin, etc., etc. Mais ce qui est plus difficile à admettre, c'est d'une part que la colonisation a pu avoir un impact structurant sur les métropoles et donc sur nous, en fait, et que d'autre part, ces processus qui ont été dialogiques, hein, entre la colonie et les métropoles ont pu se poursuivre au-delà des décolonisations. Bon, c'est bien évident que quand vous travaillez, par exemple, sur le racisme, c'est très difficile de faire l'impasse sur la question coloniale, puisque la période coloniale est quand même une période matrice. Alors, ce n'est pas la seule, on pourrait monter encore plus loin, l'esclavage notamment, mais pendant la colonisation, il y a là, je dirais, une configuration très caractérisée qui nous permet de mieux éclairer les processus qui se poursuivent après les décolonisations, si on parle, par exemple, du racisme, en termes de représentation des différents groupes humains colonisés et qui se trouvent de fait des immigrations postcoloniales en métropole. Donc, ça nous pose des questions qui sont intéressantes. Et si vous regardez cette controverse sur l'islamo-gauchisme, qu'est-ce qu'on reproche en fait à ces courants? C'est d'importer des thématiques états-uniennes, d'une part, et puis d'autre part, d'avoir cette obsession finalement de la colonie, de l'histoire coloniale, qui est très, très grossièrement caricaturée par les gens qui promeuvent le combat contre l'islamo-gauchisme, mais dans des termes extrêmement violents. Ça ne vous a pas échappé qu'on a des tribunes. J'ai lu récemment une tribune dans Marianne contre Michel Dievorka, qui est quand même, semble-t-il, quelqu'un d'assez modéré, en tout cas, et qui est d'une violence inouïe. C'est une destruction en règle parce qu'il aurait été en lien avec des gens qui ont fait des post-colonial studies. Donc, vous voyez, c'est une question brûlante. une question difficile. Et le problème, c'est que l'État, aujourd'hui, ne sait pas comment se positionner. Il n'a jamais su comment se positionner sur l'histoire coloniale. Sur l'histoire de l'esclavage, on voit que les choses avancent. Il y a le mémorial dont on vient de parler, il y a Dominique Taffin qui dirige cette institution sur la mémoire de l'esclavage. Sur la colonisation, nous n'avons rien. On n'a pas d'institution qui travaille là-dessus. Elle est très peu représentée à l'université. Donc, on est dans une espèce d'entre-deux aujourd'hui avec un pouvoir politique qui semble vouloir quand même avancer sur un certain nombre de ces thématiques. On l'a vu avec le rapport Stora sur l'Algérie, par exemple. On l'a vu avec un certain nombre de déclarations d'Emmanuel Macron. Mais en même temps, c'est inflammable. Et je crois que depuis les décolonisations, on avance avec la plus grande prudence. Et donc, il n'y a pas une institutionnalisation d'un débat public qui pourrait se faire dans une institution, par exemple, avec tous les éléments contradictoires que ça veut dire, des débats, la vie des idées, tout simplement, puisqu'on n'est pas d'accord, bah, très bien, parlons-en. Et pour l'instant, nous n'en sommes pas encore arrivés à ce stade. Voilà. Nous n'avons pas l'expérience, je faisais un débat la semaine dernière à l'Institut Goethe de Bonn, avec des chercheurs allemands qui ont travaillé sur le nazisme et la mise en œuvre en fait, d'expositions sur le nazisme dans les années 60 et 70. Et les Allemands, par exemple, ont cette expérience d'un traumatisme, alors, sans doute encore beaucoup plus effrayant que le traumatisme colonial pour nous, cette grande déchirure européenne du nazisme. Mais ils ont cette expérience de la mise à jour et de l'exposition dans l'espace public de ce traumatisme. Nous ne l'avons pas, et je pense que nous ne savons pas encore comment faire.
Oui, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, c'est vrai que cette question de l'histoire coloniale, elle, dans les musées, mérite d'être posée, d'autant plus qu'elle concerne un large spectre d'institutions patrimoniales à diverses échelles aussi par la nature de leur collection. C'était aussi toute la problématique du rapport des musées allemands sur la question des contextes coloniaux dans les collections, et qui a mis en avant à la fois des collections dans des musées d'histoire, mais aussi dans des musées de beaux-arts, dans des musées d'histoire naturelle, dans des collections d'archives. Donc effectivement, c'est une question dont chacun doit s'emparer au sein des institutions. Pour revenir sur la question de l'exposition, il nous avait paru important dans nos discussions préalables aussi de parler de questions muséographiques et en tout premier lieu de se demander, en fait, parce que quand on parle d'exposition, cela recoupe des situations, des contextes très variés suivant effectivement qu'on est dans un musée ou sur un site patrimonial, un site qui peut être marqué par la mémoire de l'histoire coloniale, par la mémoire de l'esclavage avec des traces qui sont parfois directes ou indirect. Et cela pose la question aussi de l'intervention dans cette diversité de sites, que ce soit dans l'espace même du musée ou en dehors, et de la neutralité aussi peut-être des dispositifs muséographiques, de ce qu'ils peuvent dire de manière explicite ou implicite. Et je vais laisser la parole à Christine Chivallon sur ces sujets muséographiques.
Oui, ben merci. Merci de m'avoir conviée à cette table ronde. Merci d'avoir pu faire en sorte qu'elle se déroule malgré les circonstances. Bon, je suis heureuse de retrouver des personnes que je n'ai pas vues depuis très longtemps. Bonjour Nicolas. Voilà.
Merci de te voir.
Et donc, moi j'ai envie de renverser un peu la perspective. Alors, je vais rebondir. J'aime l'expression favorite des académiques, on rebondit. Sur ce que tu as dit, on ne sait pas faire. L'État ne sait pas. L'État ne sait pas intégrer la question coloniale. Et c'est pourquoi l'État ne sait pas intégrer la question coloniale? Parce que je pense que la question coloniale et la question esclavagiste est structurante de la modernité occidentale. Ça demanderait, comme nous, on nous demande académiques, et je pense notamment aux anthropologues, et je pense à la leçon inaugurale au Collège de France de Pierre Bourdieu, pour rendre notre discours scientifique acceptable. Il faut que nous fassions un retour sur nous-mêmes, ce qu'on appelle de la réflexivité. Et dans la muséographie, dans le récit, la construction du récit national, on ne sait pas faire ce regard réflexif. On ne sait pas auto-analyser ce qu'on est en train de faire. Et on en a eu une très belle preuve hier avec la dépose de la gerbe de fleurs sur la tombe de Napoléon, où notre cher Emmanuel Macron, oui, a dit que Napoléon avait rétabli l'esclavage, mais tout en disant que derrière, nous avons réparé, nous avons récupéré la faute, puisque nous avons aboli l'esclavage, etc., définitivement, mais nous, c'est la République. Et dans cette affaire, on oublie l'autre nous, le nous représenté par Delgrès, qui était plus républicain que la République et qui est héroïquement s'est
immolé.
Enfin, non, c'est pas immolé, il y a eu un suicide collectif face aux troupes napoléoniennes. Cet héros-là disparaît de la chronologie. Donc, ce que moi, je voudrais renverser, c'est cette perspective. Est-ce qu'on peut ou pas exposer l'esclavage? Et quand on l'expose, est-ce que, en fait, on n'est pas en train de reproduire des schèmes? Est-ce qu'on n'est pas en train de reproduire une histoire qui, à nouveau, reconduit des catégories sociales qui sont celles issues de cette matrice qui ne se remet pas en cause et qui s'appelle modernité occidentale? Cette modernité occidentale, c'est un espace moral qui est borné par deux événements, des événements qui sont des événements du tragique, du drame. C'est d'un côté la traite et l'esclavage, de l'autre la Shoah. Et ça, c'est notre collègue Didier Fassin qui le décrit très bien. Ce sont deux indépassables. Et c'est pour ça que c'est très bien de mettre en dialogue ces deux événements. Et ces deux indépassables, Aimé Césaire disait que de bout en bout, l'Europe est indéfendable. Mais l'Europe, elle veut se rendre défendable et elle veut créer son propre discours de beauté, de gloire et d'acceptation de la vérité de sa narration. Et on retombe, nous, en France, toujours sur ce fameux acte fondateur que serait l'abolition et qui nous permettrait d'avoir été pardonnés éternellement du péché de l'esclavage. Et rappelez-vous le slogan de 1998, tous nés en 1848, tous nés en 48, c'est-à-dire qu'on fait abstraction de tout ce qui s'est passé avant et surtout de tout ce qui va se passer après, qui est la continuité. Une continuité, mais qui ne se dit pas, puisqu'un espace discursif a été aménagé dans la narration nationale, dans le récit national français, qui est de dire l'invisibilité de la race, l'invisibilité des discriminations. Et la question qu'il faut se demander face au dispositif muséographique, est-ce que celui-ci le reproduit ou pas? Alors moi, je dirais, et pardon pour ceux dont j'admire l'action, je le dis franchement, hein, mais je dis que oui, le musée est une machine à fabriquer la discrimination. Alors, je modère mes mots, vous avez vu, je les modère vraiment. Quand on voit deux types de dispositifs muséographiques côte à côte, qu'est-ce qu'on peut penser? Alors, le type même est présent, et Dominique le sait bien, il est présent à la Martinique, à la Guadeloupe. On a des musées de plantations qui sont édifiés à la gloire de la culture des colons, qui glorifient véritablement la blanchité, puisque, n'ayons pas peur du mot, Frantz Fanon l'avait très bien analysé, hein, on crée la personne noire pour se voir soi blanc et civilisation blanche dans les yeux du noir. Les dispositifs muséographiques sont complètement pendulaires, c'est-à-dire que d'un côté, il y a des tentatives de reconnaissance et de l'autre, une négation de cette reconnaissance. Donc, comment peut-on s'y reconnaître? Alors, le dispositif le plus que je vous conseille d'aller voir, qui est le plus caractéristique, c'est celui de la Fondation Clément à la Martinique, où se trouvent deux musées côte à côte, l'un qui est édifié à la gloire de la culture des blanches créoles, des maîtres de l'habitation, ce qu'on appelle l'habitation, et de l'autre côté, un musée d'art contemporain qui va capter toute l'offre artistique, toute la capacité de résistance des artistes en offrant un dispositif muséographique où là, on peut s'en donner à cœur joie. Plus c'est contestataire, mieux c'est. Et ceci, en même temps, reproduit une position par le biais de l'entrepreneuriat culturel, par le biais du mécénat, une position d'élite blanche face à une population noire. Donc déjà, on a ce premier exemple. On peut trouver d'autres exemples. Moi, je trouve que quand même, cette fresque du Palais Bourbon, la fresque de l'abolition, donc qui est, je ne sais pas si je vous la montre, je peux partager mon écran si vous voulez, qui, moi je veux bien croire l'artiste, il est d'une sincérité quand il dit « mais je n'ai pas vu que ça pouvait être caricatural », donc c'est cette fresque qui commémore l'abolition, hein. qui est véritablement un stéréotype tel que l'a créé le colonialisme, la traite et l'esclavage. Et quand cet artiste nous dit ça de façon tout à fait sincère, son innocence, je me dis qu'en même temps, il nous dit la profondeur des impensés, de nos impensés face au colonialisme et à l'esclavage. On peut trouver d'autres exemples, à la Porte Dorée, par exemple, le fascicule qui est donné aux visiteurs à l'entrée du palais de la Porte Dorée. Le fascicule dit que le palais de la Porte Dorée, c'est une réponse au Panthéon. On met en dialogue deux mémoires, sans se poser la question s'il faut en condamner une ou pas, et le palais de la Porte Dorée, du coup, rattrape un peu ce qu'a pas fait le Panthéon, c'est-à-dire raconter l'histoire des coloniaux. Alors, je peux vous dire, hein, la différence entre, je le tire du fascicule, hein, la différence entre cette façade du palais et le Panthéon illustre deux visions de la République, allez, on vous dit ça allègrement, hein, celle de la République coloniale, qui s'est voulue continuatrice du projet de la monarchie et de l'Empire, et celle des républicains qui percevaient le projet colonial comme problématique par rapport aux valeurs républicaines. Donc, comment peut-on s'en sortir avec deux discours côte à côte qui nous disent deux récits complètement différents et qui entrent en contradiction profonde et qui, du coup, annulent tout processus qui est celui de la reconnaissance inconditionnelle. Oui, le mot usé doit être engagé. Quand je lis dans Télérama juillet 2020, je crois que c'est le directeur du musée d'Orsay, je ne suis pas sûre, mais c'est le musée d'Orsay qui parle, mais je pense que le musée d'Orsay ne parle pas tout seul dans l'extrait que je prends. Donc, le musée doit être à sa juste place. Il ne doit pas condamner, il ne doit pas absoudre. Eh bien, moi, je dis si, le musée doit condamner. Et nous l'avons eu au cours de l'atelier avec Dominique Taffin, un atelier extrêmement intéressant, où Boris Vatou, qui est directeur du musée d'ethnologie de Genève, disait de suite sa posture, c'est son engagement dans la dénonciation de la domination et de ce qui a été un processus de déshumanisation. Pourquoi il faut poser la question pour la traite et l'esclavage? On l'a acquis, je crois, pour la Shoah. Je crois que ça n'est pas discutable. Ça n'est pas discutable de dire que la Shoah a été quelque chose d'extrêmement, le drame le plus atroce que l'on puisse imaginer, mais on n'arrive pas à le dire pour la traite et l'esclavage. Et on est tout le temps balancé entre deux versions qui font que l'on se perd et qui font que l'on construit en même temps à nouveau, on reproduit de la discrimination, on reproduit des schèmes d'identification et on reproduit surtout de la colère. Parce que la non-reconnaissance, ça fait naître de la colère. Et pareil pour ce qui se passe dans les musées qui pourraient être dit les plus portés à faire paraître cette histoire. Et pourquoi les musées les plus portés à dire cette histoire, eux aussi rencontrent, achoppent sur un obstacle. Alors, d'après moi, ils achoppent sur un obstacle parce que je crois que le musée, et on le trouve dans Benedict Anderson, L'imaginaire national, qui est un ouvrage qui a fait vraiment date dans les années 80, 90, ça ne nous rajeunit pas, Nicolas, oui, L'imaginaire national, Benedict Anderson nous dit le musée est l'institution par excellence de la modernité occidentale. Et pourquoi il l'est? Parce qu'à partir du moment où le musée intervient, il se donne le droit de conserver, de dire la diversité, de déclarer lui-même ce que l'on doit retenir dans l'histoire du monde. Et ce musée est un des piliers de la culture moderne, nationale, du nationalisme occidental européen. Alors moi, je vais terminer, je ne sais pas combien de temps, j'ai quand même utilisé beaucoup de temps, je crois déjà, parce que j'ai toujours aimé, alors j'avais terminé un de mes articles en 2005 en disant que le musée ne pouvait pas accueillir ce qui était une expression de la contre-modernité, expression que l'on trouve chez Paul Villeroy. Il ne peut pas l'accueillir puisqu'il est fondamentalement moderne. Il est fondamentalement moderne parce qu'il est une maison de l'optique, il est une maison de la périodisation, il est une maison de la chronologie. Chronologie, donc glissant, nous dit qu'elle n'est absolument pas adaptée pour dire l'histoire de l'esclavage. Donc, moi, je disais, il ne peut pas accueillir, ce n'est pas possible, il y a un hiatus. Et je me dis, l'expression de l'esclave, l'expression de la personnalité de l'esclave, on la trouve dans l'en dehors du musée, et je pensais par exemple au Cap 110 en Martinique, qui est un mémorial magnifique, mais où l'on voit l'expression de la réappropriation dans les rituels religieux qu'il y a autour et qui sont complètement clandestins. C'est là où, de manière clandestine, s'immisce la personnalité que Césaire disait être la personnalité martiniquaise. Et donc, sous la plume d'Achille Bembé, que j'aime beaucoup, donc, qui va me classer bien évidemment islamo-gauchiste, il le dit très bien, il dit de par son existence même, la communauté des esclaves ne cesse de fonctionner comme une critique radicale de la contradiction vivante que constituent les démocraties esclavagistes. Et là, je renvoie à l'article de Thomas Piketty, juste après les événements du Capitole, qui dit à peu près la même chose. L'esclave rentrerait-il véritablement dans le musée tel qu'il existe de nos jours, que le musée cesserait automatiquement d'être un musée? L'entrée de l'esclave dans le musée consacrerait doublement l'esprit d'apartheid, qui se trouve à la source de ce culte de la différence, de la hiérarchie et de l'inégalité. Or, justement, il faudrait garder à l'esclave sa puissance de scandale. Ce à quoi nous invite l'histoire de l'esclavage atlantique, c'est donc à fonder la nouvelle institution que serait l'anti-musée. Alors, je vous laisse avec ce constat, mais il faut travailler avec, et il faut faire comme nous essayons de faire les académiques, on n'est peut-être pas nombreux à adhérer à cette école, mais sans arrêt nous questionner sur ce que nous faisons. Et quand on, l'islamo-gauchisme, pour y revenir, il y a un très bel article sur Lévi-Strauss quand Sarkozy était allé honorer sa mémoire lors de sa mort, dans le Nouvel Obs, qui dit que Lévi-Strauss est le cocu de la République. Aujourd'hui, Lévi-Strauss, il serait islamo-gauchiste. Il serait islamo-gauchiste parce qu'il l'interrogeait. Il interrogeait les fondements de la République. Est-ce que le meilleur que nous ayons à faire pour la République, c'est d'en interroger incessamment ses fondements? Sinon, nous ne servons à rien. Si c'est pour gratifier la République qui fait une dépose de gerbe à Napoléon, qui, lui, est reconnu comme ayant restauré l'esclavage, bon, notre rôle, non, notre rôle, il est de donner les moyens, je parle des intellectuels, à la République de penser ce qu'elle est en train de faire. Et c'est là qu'elle acquérait, pour moi, la noblesse de ses valeurs, en les questionnant, en les remettant en cause sans arrêt, et notamment au travers de l'institution muséale. Voilà.
Alors, ce constat est peut-être le constat d'une définition une et unique du musée. On pourrait se demander si on peut essentialiser le musée alors qu'il est, sans doute, pluriel, et il laisse la place aussi à des discours et à des points de vue pluriels en s'interrogeant sur la diversité des récits. C'est dommage que ce colloque ait lieu en virtuel parce que sinon nous serions dans les salles du palais de la Porte Dorée devant ces éléments de décor que vous citiez à travers certains propos d'une publication, des éléments qui se voient déjà depuis l'espace public.
Par exemple, pas une publication, hein, c'est le fascicule de donner aux visiteurs.
Oui, mais c'est une forme de publication qui est un des outils de médiation, mais qui est loin d'être le seul. Mes collègues du Palais de la Porte Dorée ont travaillé ces derniers temps sur différents dispositifs pour contextualiser, autant dans le domaine de l'histoire de l'art que de l'histoire coloniale, ce que sont le bas-relief d'Alfred Janiot en façade ou les décors peints à l'intérieur du musée. Pour revenir à cette question justement de la manière dont on peut introduire dans l'exposition cette pluralité des récits, des histoires qui permet peut-être de réconcilier les mémoires, de ne pas opposer des discours qui soient des discours tantôt victimaires, tantôt culpabilisateurs. Je voudrais justement demander à Dominique Taffin et à Laurel Arinson, à travers des exemples aussi de musées qu'elles ont pu côtoyer et au sein desquelles elles ont pu être actrices, quelle était justement la singularité de ces dispositifs et en quoi il est difficile de réduire le musée à un exemple unique.
Donc cette question de l'invisibilité qu'a développée Christine Chivallon, elle s'est posée de façon très très dur en fait dès l'ouverture du Memorial Act, et nous on a tenté d'y travailler et on tente d'y apporter des réponses dans un programme qui s'appelle Mofraser le Mac. Alors, ce programme, il s'inscrit en fait dans une opération plus large qui est le Mac Lab. Et le Mac Lab, c'est la possibilité qu'on s'est donnée d'accueillir en résidence des chercheurs, des artistes, des curateurs, parce que le Mac n'a pas l'ambition de développer un laboratoire de recherche, hein, au sens universitaire du terme, mais cette option-là nous permet de nourrir en fait notre réflexion et aussi de développer un soutien à la création artistique par ces résidences de créateurs. Donc, Mofraser le Mac. Alors, Mofraser, c'est un mot créole qui veut dire transformer. Donc, c'est un programme qui s'est proposé depuis plus d'un an de réfléchir à la refondation de l'exposition permanente. Donc, Mofraser, c'est changer de peau pour en revêtir une autre. Le Mofraser, en créole, c'est un personnage dans la cosmogonie qui, la nuit, se transforme en chien, en oiseau, et le matin, reprend sa forme humaine. Donc, Mofraser, c'est ça, changer de peau, en revêtir une autre, c'est transcender tous les interdits et c'est faire œuvre d'alchimiste. Alors, je veux bien, Sarah, que tu continue à montrer les autres diapositives. Et donc, encore plus loin. Et donc, le MACT, en fait, a porté cette ambition-là d'accomplir cette transformation et de sortir de sa chrysalide en faisant appel à tous les porteurs de cette mémoire, de la traite, de l'esclavage, des abolitions, que sont les artistes, les auteurs, les philosophes, les conteurs. Donc, il s'agit pour nous, parce que c'est un programme sur 5 ans, de déconstruire l'exposition, déconstruire l'exposition permanente, de la modeler à l'image de ces sociétés issues de l'univers de plantation et de peindre un récit qui leur ressemble pour répondre justement à ces critiques qui se sont élevées, critiques parfois acerbes, dès l'ouverture de l'exposition permanente. On peut par exemple constater que les 4 premières salles sont vues du point de vue de l'Européen. Donc, le cycle Mofraser le Mac va se décliner en cartes blanches qui sont confiées à des artistes contemporains qu'on invite à investir l'espace de l'exposition permanente et à faire dialoguer leurs installations avec les œuvres afin d'en réinterpréter le discours. Et donc, Philippe Tomarel a inauguré avec nous ce cycle avec un objet singulier que vous voyez à l'écran qui a été démultiplié à l'infini, cette petite poupée qui a une très forte charge symbolique dans la société guadeloupéenne. Et donc, à travers cet objet, en fait, aussi tout aussi anodin que singulier, il magnifie la société et il l'inscrit dans l'univers de l'exposition. Parce que typiquement, la société de plantation, elle n'est pas présente avant la première moitié, en fait, la deuxième moitié de l'exposition. Donc, c'est bien, avec ces petites poupées, on peut continuer à voir comment elles ont été intégrées à l'exposition par Philippe Tomarel, si on continue les diapositives suivantes. Donc, avec ces poupées, Tomarel a magnifié, en fait, la société guadeloupéenne et l'a inscrite dans l'univers de l'exposition. Donc, typiquement, la diapositive que vous avez à l'écran maintenant, enfin, celle juste avant, c'est le couloir dans lequel est représenté, dans lequel on a un portrait en pied de Napoléon. Donc, Napoléon est présenté en majesté dans cette salle qui lui est dédiée au MAC. Et donc, Tomarel a voulu confronter ce portrait à ce peuple de petites poupées. Donc, ces poupées, elles rappellent dès la première salle le coût humain de la conquête et elles sont comme une présence, elles rappellent cette présence fantomatique, en fait, parce que c'est la présence, justement, de l'esclave, elle est très fantomatique dans l'exposition. Donc, c'est une présence fantomatique des âmes à venir dans les salles plus loin. Ces poupées, elles transgressent l'invisibilité de ces hommes déportés, les uns et les autres, composant donc de ce peuple en devenir. Elles incarnent cette humanité sacrifiée qui a laissé derrière elle des sociétés complexes. Et aussi, c'est une autre critique de l'exposition, c'est cette évocation très fugace des royaumes africains. Ces poupées symbolisent aussi ces carrefours commerciaux qui ont été peuplés de figures errantes, sacrifiées aux lois de l'économie triangulaire, et qui étaient en partance donc pour une traversée océanique qui se voulait déshumanisante et qui oblige à se tenir couché dans la cale. Donc, on a, en fait, avec son installation, on a une progression le long des 32 salles de l'exposition où de coucher dans la cale, on va arriver aussi à cette position en fait, de courber dans la plantation et jusqu'à se tenir debout dans les villes parce que cette poupée, elle dépeigne finalement et une humanité qui s'est reconstruite en négociant entre plusieurs dieux, en amalgamant des cultes, en créolisant des pratiques. Au-delà de leur de la condition meuble, de l'asservissement, en fait, elles invitent aussi à faire peuple. Et c'est vraiment le propos de Philippe Thomarel avec cette installation métissage schizophrénique. Donc, elles invitent à faire peuple, à connecter des histoires fragmentées dans un récit commun et à affronter justement ces métissages schizophréniques. Voilà, merci.
Je peux vous demander, c'est une expo permanente, c'est une expo permanente ou
Alors, c'est une exposition qu'on a installée dans l'exposition permanente en juillet et qui est encore dans l'exposition permanente. Alors, de façon très surprenante, nous, on a cru que ça aurait soulevé énormément de débats en juillet, au moment de l'inauguration de l'exposition. Et il n'y a pas eu le moindre article de presse dans la presse locale, parce que c'est un objet très, très intime, cette petite poupée qui est utilisée dans les pratiques magico-religieuses. Donc, ce n'est pas un objet qu'on sort dans le public. Et là, le MAC a été envahi de 1700 poupées. Alors, ce sont des poupées toutes blanches. Elles sont vendues, en fait, dans ces magasins ésotériques, toutes blanches ou toutes noires. Et c'est Philippe Thomarel qui les a recomposées pour justement présenter cette société guadeloupéenne. Et alors, c'est au moment de la crise du MAC, hein, dont tout le monde a entendu parler, là, en mars, que le scandale de cette exposition est ressorti. Et ça a été utilisé, en fait, en quelque sorte, comme argument pour dire qu'on avait dégradé le MAC parce qu'on y avait installé ces poupées. Et les poupées n'ont pas été perçues comme une installation d'un artiste, mais les gens ont vraiment cru que j'étais allée dans un magasin ésotérique et que j'avais acheté les poupées que j'avais installées dans le MAC et que j'avais du coup détruit certaines salles. Donc, c'est là aussi où on voit qu'on a, et ça, je parle même des membres du conseil d'administration, on a vraiment il y a ces interventions qu'on peut faire avec les artistes, ce dialogue, cette réflexion, et après, il y a la dimension de médiation et qui n'est pas simplement envers le public, mais qui est aussi envers les politiques avec lesquelles on travaille. Et est-ce qu'on peut croire évident, c'est vrai que moi, je suis un peu tombée des nues de voir à quel point cette perception pouvait en arriver à ce point-là. Et finalement, quand l'exposition a été présentée en juillet, parce qu'on a eu la chance d'être ouvert en juillet-août, en fait, nous, on a été ouvert jusqu'au mois de mars. Hein. On n'a pas eu de problème d'ouverture par rapport à la crise sanitaire. Et donc, à la réouverture du musée mi-juillet, on avait lancé un programme qui s'appelait au MAC La Ligne Claquerée, le MAC au clair de lune, et qui était dédié spécifiquement au personnel de l'hôpital, en fait, au personnel qui avait contribué, en fait, c'était... dévoué pour cette crise sanitaire. Et donc, il y avait des visites privées dédiées à ce personnel, ce qui permettait aussi à beaucoup de gens, d'accueillir beaucoup de primo-visiteurs, de gens qui n'étaient jamais vus au MAC. Et on a eu donc tout le mois de juillet, tout le mois d'août, ces visites privées, aucune réaction négative. Et donc, c'est très, très intéressant parce que cette réaction négative, elle a été instrumentalisée politiquement au mois de mars. Et donc là, je crois qu'il y a énormément d'enseignements qu'on peut tirer de cette crise et l'analyse de ce phénomène-là en est un. Je passe la parole à Dominique.
Oui, peut-être quelques mots. Alors, de fait, c'est vrai que moi, je n'ai pas d'image à vous montrer pour deux raisons. D'une part, parce que, en fait, c'est vrai que dans ce que j'ai connu, disons, sur les 20 années presque que j'ai passées en Martinique, de fait, il y a eu beaucoup d'expositions. Enfin, on voit dans le timing, disons qu'il y a eu quelques expositions avant 98, mais en fait, c'est surtout tourné autour du bicentenaire de la Révolution française, hein, qui est un moment aussi où voilà, la question évidemment de l'esclavage apparaît. Il y en a eu beaucoup plus après, mais de fait, en fait, c'est vrai que les réalisations qui ont été faites, comme je disais tout à l'heure, en fait, elles sont très attachées au document, voilà, qui est posé là, sans mise à distance critique. Et ça, c'est une vraie, évidemment, question. Donc, cette position un peu sacrée du document, mais en même temps, qui est présentée de façon très, très pauvre aussi, c'est-à-dire avec très peu de muséographie. Et ça, bon, c'est dû, je pense, enfin, il y a plusieurs facteurs, c'est pour ça que le jugement de Christine, je le tempère un petit peu, parce que je pense qu'il y a aussi quand même une dimension aussi à la fois de... aussi de l'environnement professionnel, hein, c'est-à-dire de petites structures avec des personnes en fait, qui ne sont pas forcément des professionnels des musées. Du coup, même sur la question du savoir-faire, hein, quand on voudrait faire quelque chose, on est rapidement en fait, bloqué par cela. Et moi, je l'ai vu en tout cas dans ce qu'on a pu faire alors aux archives, hein, qui est très modeste, pas du tout spectaculaire, mais où, par exemple, déjà en abordant d'autres thématiques, des thématiques un petit peu plus pointues, comme celle, par exemple, de la question des libres de couleurs, et donc des questions aussi qui sont complexes en fait dans l'histoire du système colonial esclavagiste. Et je fais une petite parenthèse pour dire que j'aime pas du tout quand on dit la colonisation d'un côté et l'esclavage de l'autre, hein. Et ça, c'est vrai que c'est une vraie aussi, c'est un des vrais sujets aussi qui, je pense, aujourd'hui est apparu et commence quand même à s'imposer, c'est-à-dire que quand même de réintroduire aussi la question dans l'idée d'un continuum colonial. Même si, bien évidemment, il y a des phases, il y a des sortes de ruptures qui ne sont jamais de totale rupture. Hein, bon, voilà, mais c'est un continuum colonial. Et donc, je parle de l'esclavage et plus largement de la colonisation, par exemple, ou de l'esclavage comme une première modalité de colonisation aussi. Voilà. Donc, ça, je pense que dans nos expériences, donc c'est vrai qu'on n'a pas fait de choses assez spectaculaires. Bon, on attend toujours une grande exposition d'ampleur nationale, temporaire, immense, concernant la question de l'esclavage ou la question plus largement de la colonisation, même s'il y a eu beaucoup d'expositions sur des aspects qui mettaient des éclairages. Et bon, on pense à la zoo humain, par exemple, évidemment, de la colonisation. Voilà. Alors, on voit, enfin, j'ai été frappée du fait que, par exemple, l'exposition du musée d'Orsay, le modèle noir, qui n'est pas ancienne, hein, puisqu'on est en 2019, a vraiment eu un écho médiatique, a eu d'ailleurs beaucoup de succès et a fait venir au musée d'Orsay beaucoup de gens qui n'y avaient jamais mis les pieds, ce qui est évidemment une très bonne chose. Mais elle a été vraiment présentée comme quelque chose de... comment dire, totalement extraordinaire, novateur, et sans doute peut-être à l'échelle française, alors de très audacieux, voilà, et finalement, c'était important qu'effectivement un musée d'art prenne ce sujet, hein, et donc je ne le formule pas comme une critique, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, voilà, on est presque une impression que c'était un peu le summum de l'audace que de faire cette exposition-là. Voilà. Et c'est là que je veux dire que ça nous permet de voir aussi le chemin qu'il y a encore devant nous à parcourir. Voilà, et qui est une exposition, évidemment, voilà, qui a essayé notamment de, justement, par son titre, de mettre en avant la figure de la personne représentée, donc du modèle. Voilà, d'amorcer l'idée, effectivement, qu'on peut avoir d'autres perspectives que cette perspective soi-disant neutre, un peu surplombante, qui est celle, évidemment, que pour toutes sortes de raisons, parfois des raisons idéologiques, disons, bien ancrées, et d'autres moins pensées, moins... Enfin, je pense plus inconsciente aussi, hein, et c'est cette idée de l'impensé évoquée par Christine. C'est vrai, parfois, de choses dont on ne se rend pas compte avec la meilleure volonté et les meilleures intentions du monde aussi. Donc, je pense que c'est vrai qu'on ne peut pas tout juger exactement à la même aune. Enfin, je pense qu'il faut quand même vraiment regarder en profondeur cela. Et puis, il y a la question de la réception par le public aussi. En fait, parce que justement, l'exposition du modèle noir qui a fait venir beaucoup de gens qui n'étaient pas venus au musée d'Orsay, et en particulier, justement, des personnes noires... venant, bon, il y a eu un public scolaire évidemment nombreux, mais voilà, de gens qui se sont dit, tiens, voilà, il y a quelque chose qui a un rapport avec moi, parce que voilà, c'est j'y vais. Et évidemment, voilà, c'est quelque chose. Ensuite, est-ce que l'essai va être transformé? C'est-à-dire, est-ce que réellement, du coup, ça va s'inscrire dans la politique du musée comme quelque chose de durable? Et ce qui pose aussi la question, effectivement, de qui parle? Je pense que c'est une question qui a été posée dans le webinaire aussi, hein, aujourd'hui. Et c'est les transformations, je pense, de ces dernières années, alors qui sont notamment, qui sont venues au grand jour avec les prises de parole du mouvement Black Lives Matter. Mais ça n'est pas né avec Black Lives Matter. Je crois que c'est vraiment important de dire que c'est pas... Ce n'est pas simplement des épiphénomènes. En fait, c'est vrai que c'est aussi la question de faire en sorte, en fait, que ces approches, elles puissent être portées, en fait, par des personnes qui peuvent avoir, voilà, différents regards. Et donc, il n'y a pas d'exclusivité de regard, mais il faut véritablement que cette pluralité de regard, elle soit portée dans l'institution. Et ça peut se faire de différentes façons, avec des gens qui sont dans l'institution, avec des gens qui collaborent à l'institution. Évidemment, le travail avec les artistes, c'est une des modalités sans doute les plus faciles, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, parce que ce n'est pas simple, mais les plus immédiates, plutôt que faciles, les plus immédiates à mettre en œuvre, hein, je veux essayer de peser mes mots, les plus immédiates à mettre en œuvre, et voilà, Lorella nous a donné cet exemple-là, il y a le musée de Nantes aussi, avec Expression décoloniale, donc, dont la deuxième édition vient tout juste ou va tout juste commencer. Mais là aussi, c'est... Comment ça va s'inscrire dans la durée? Comment ça va s'inscrire dans un processus de transformation de l'institution musée? Et là, je rejoins Sarah, voilà, parce que je pense qu'Achille Mbembe aussi, là, dans son... C'était un peu un pamphlet, finalement, aussi, son texte. C'était une analyse, évidemment, argumentée et profonde, mais il y avait une dimension aussi, je veux secouer un peu le cocotier et faire qu'on se pose vraiment ces questions-là, qui sont présentes dans le musée et... quand même depuis quelques années, surtout dans les musées d'anthropologie, hein, ça, on le voit depuis les années 80. Moi, je me souviens au défunt Mao, quand on a, voilà, commencé à travailler sur le projet de ce qui allait devenir le musée du Quai Branly et qu'on a organisé ce colloque avec le Centre Georges Pompidou, justement, finalement, sur... quel musée, le fameux musée des cultures du monde, voilà, et qui était des interrogations qu'on voyait voilà, dans toute l'Europe, mais qui n'ont pas évolué, je pense, de la même façon dans les différents pays d'Europe. C'est vrai que quand on voit ce qui se passe aux Pays-Bas, par exemple, aujourd'hui, les progrès qui ont été faits dans cette matière, et une certaine frilosité en France, et peut-être ce côté un petit peu trop... réactionnel, c'est-à-dire, voilà, il se passe quelque chose, du coup, je suis obligée de bouger un petit peu. Et ça, je pense qu'on a besoin, effectivement, de cette plus grande ouverture dans l'institution pour qu'elle puisse travailler en confiance avec, voilà, avec ses partenaires extérieurs.
Est-ce que je peux me permettre, Sarah, de donner une petite réponse à Dominique?
Oui, je crois qu'après, on a pas mal de questions de la part du public.
Juste une précision. Je ne juge pas, et tu as raison de dire que tu réclames un discours plus nuancé, etc. Je pense que le chercheur ne joue pas son rôle s'il n'analyse pas avec une sorte de microscope. Il doit grossir les choses. Il doit les grossir pour extraire les logiques. S'il ne fait pas ce job, il ne fait pas son job. Et quand je parle de la réflexivité, c'est valable pour nous, les chercheurs aussi. Nous sommes dans une institution qui aussi a nous contraint dans nos discours. Mm-hmm. Nous avons exactement, je pense qu'il faudrait mettre véritablement en miroir les deux pratiques, la pratique muséale et la pratique scientifique. Absolument. Nous avons les mêmes problématiques, les mêmes contraintes, les mêmes difficultés à pouvoir faire émerger un discours. Nous sommes... contraints par des logiques institutionnelles. Donc, je crois, je voudrais surtout pas que mon propos passe pour être jugeant. Il ne l'est pas. J'ai une grande admiration. Tu sais combien je suis amie avec les conservateurs du musée d'Aquitaine. Mais mon travail, je pense, il est celui-là. Et c'est à nous de trouver comment... mais je pense qu'on y arrive très bien. Patrimoine déchaîné, là, c'est ça, c'est l'atelier. C'est un lieu extraordinaire, de véritable réflexivité, je pense, sur la pratique muséographique. Donc voilà, je voulais juste rajouter ça pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur les valeurs et les jugements. Ce n'est pas mon rôle de juger, ni celui d'Achille Bembé, que je défends.
Mathias, peut-être on passe aux questions du public.
Oui, merci. Alors, je vais reprendre quelques questions. Effectivement, il y en a eu un certain nombre. Alors, tout d'abord, un commentaire de... on est aussi à Régis. D'abord, un commentaire d'une enseignante, Ami Tondu, qui remercie Mme Taffin notamment pour le site web de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage et les ressources qui s'y trouvent. Notamment le kit mairie et collectivité, donc voilà, c'était important de le citer. Puis sinon, une question de Camille Faucourt, donc pour Nicolas Bancel, mais aussi pour l'ensemble des participants, donc je vous la livre. Un musée de la colonisation est-il réellement nécessaire? Isoler le sujet dans une institution dédiée, n'est-ce pas isoler cette histoire et en quelque sorte marginaliser ses conséquences multiples dans nos sociétés contemporaines? Racisme, migration, diaspora, etc. Comme l'indique Mme Chivallon, n'est-ce pas plutôt la matrice des musées européens et français, de beaux-arts, d'ethnographie, d'histoire, qu'il faut réinventer? Voilà, donc cette question que je vous...
Oui, alors...
Est-ce que vous voulez qu'on... Voilà,
j'en prie. J'interviens donc sur la question. Oui, c'est une question qui est tout à fait pertinente, hein, effectivement. On vient d'avoir un long débat sur la... je dirais, la quasiment ontologique, en fait, sur qu'est-ce qu'on peut faire avec un musée européen. C'est une vraie question que je me pose parce que, de fait, je pense qu'une institutionnalisation de l'histoire coloniale, comme ça a été fait pour d'autres sujets historiques, là, je reprends le débat que j'ai eu la semaine dernière à l'Institut Goethe, le fait est qu'il y a des musées de l'Holocauste qui ont su trouver aussi des réponses à cette question incroyablement difficile qui est posée par la Shoah. Donc, il me semble que la chose n'est pas impossible en soi, dans la mesure où on repense le musée totalement. Et peut-être, comme le dit Christine, peut-être penser le musée non plus comme un espace clos sur lequel, à l'intérieur duquel, plus exactement, on va traiter une question, la clore en quelque sorte, mais justement essayer de trouver des dispositifs qui permettent de faire du musée un espace déterritorialisé. Alors, honnêtement, je ne suis pas muséographe, je n'ai pas de technique ou de choses très précises à proposer, mais il me semble que, par exemple, le fait que le musée devienne un espace où il n'y a pas forcément d'exposition permanente, il n'y a pas forcément d'objet même. On peut penser à un musée sans objet. Où le musée devient un espace où on pense d'abord les circulations d'idées, les confrontations aussi, avec comme impératif de, et peut-être est-il impossible à remplir, mais trouver des systèmes pour que la voix de ceux qui sont sans voix puissent trouver un espace où s'exprimer. C'est-à-dire que c'est le musée cul par-dessus tête, si je puis dire. Donc, vous savez, on en parlait au début de l'émission, cette volonté de pouvoir mettre à jour en fait la vie de ceux dont on n'a jamais écrit la vie. Il y a des efforts qui sont faits dans l'histoire de l'esclavage, sur les biographies d'esclaves, sur des prosopographies, etc. Je dirais que tout ce mouvement d'ailleurs de faire parler ceux qui ne parlent pas, ça devient des subalternes studies, hein. Faut pas l'oublier quand même. C'est pour ce qui concerne les mondes colonisés, c'est les années 1980, donc c'est relativement récent à l'échelle de l'histoire de l'histoire. Mais un musée qui penserait d'abord non pas en termes de fixité, mais de circulation, de débat, d'animation, un musée moderne qui soit évidemment totalement connecté aussi avec ce qui se fait ailleurs. Parce que bon, il y a bien sûr les expériences qu'on vient de décrire avec Dominique ou le Memorial Macht, mais il y a des choses tout à fait intéressantes qui se font sur le thème de l'esclavage aux États-Unis. Vous savez qu'aux États-Unis, il y a plus de 100 musées sur l'esclavage. Il y a des choses très intéressantes qui se font en Allemagne aussi. Curieusement, sur la colonisation, j'étais très surpris depuis une dizaine d'années, voire une quinzaine d'années, de voir que les recherches en Allemagne sur la colonisation et l'histoire postcoloniale sont beaucoup plus avancées que ce que je pouvais penser, en tout cas beaucoup plus avancé que ce qu'on peut trouver en France. Alors que finalement l'Allemagne, bon, ben, elle a eu des colonies jusqu'en 1918, hein, et puis elle les a perdues après la défaite de la Première Guerre mondiale. Alors on aurait pu penser que les Allemands, ben, finalement s'en fichent un peu. Et en fait, pas du tout. Eux, ils ont vraiment pris à bras le corps cette question-là. Et elle fait l'objet non seulement de recherches scientifiques, mais d'expositions, d'un travail de diffusion, de réflexion qui est, je dirais, embryonnaire chez nous. Alors, certains s'y intéressent, mais enfin, on n'est pas très nombreux, et qui s'est beaucoup développé. Ça veut dire que des choses sont possibles, mais de toute évidence, oui, s'il y a un musée de la colonisation, c'est un musée global. C'est un musée qui en même temps n'occulte pas l'esclavage, n'occulte pas la question postcoloniale, n'occulte pas les affrontements qu'il y a autour de l'interprétation de ces périodes coloniales, postcoloniales, et qui, encore une fois, fait parler les sans-voix. Alors, c'est un musée inventé, c'est un musée qui n'existe pas, mais c'est peut-être l'occasion de le faire.
J'avais une question qui m'a été posée, qui est très très vaste, donc je pense qu'en 5 minutes, ça va être très compliqué, mais la question, c'était pourquoi questionner le rôle de l'État, pourquoi est-ce si difficile en France sur les questions d'esclavage et de colonialisme? C'est Fatimata qui pose cette question, et effectivement, ça pose aussi la question de l'évolution des enjeux mémoriels dans la sphère publique, donc des affrontements, donc c'est une question très complexe, mais si quelqu'un veut se lancer en quelques phrases.
Moi, je veux bien, vu que je suis partie dans une lancée plutôt provocatrice, mais tout à fait réfléchie. Hein. La difficulté, elle vient qu'on a un récit national qui se structure en tronçons. On a des poussées, on appelle ça nos poussées républicaines et nos poussées conservatrices. Et On a besoin de se réfugier dans les poussées républicaines, mais ces poussées républicaines demandent de cacher l'autre face, qui est la face conservatrice. Et donc, ce récit national, il a tellement ce repère ancré en lui que la République a éradiqué toute forme d'inégalité. C'est un lieu refuge et il ne faut pas y toucher. Ça devient quelque chose d'intouchable et de sacré. Et je crois que cette propension à croire à la singularité, la France serait la seule à avoir créé ce modèle. Mais je crois que depuis quelques années, je pense que c'est les émeutes de 2005 qui ont embrayé ce mouvement-là. L'image de la France, patrie des droits de l'homme, etc., a été mise à mal par le regard lui-même des autres nations européennes et même hors de l'Europe. Et ce récit est mis à mal, il est fracturé, et il ne tient plus, et il ne peut plus servir de valeur refuge, mais on s'y accroche, on a véritablement, et puis il se répète, hein, on achète cher, donc 1848, on va avoir nos grandes figures, on a nos pères fondateurs, De Gaulle, c'est une figure extrêmement importante qui jalonne. De Gaulle, c'est quand même la libération, on a vraiment des repères extrêmement forts pour se réfugier dans ce récit national qui serait le récit de l'idéal de la démocratie, égalitaire, sans distinction de classe, de race, etc. Et c'est pour ça que ça fait tellement mal d'entendre le mot racisé, racialisant. Et quand je disais Lévi-Strauss qu'il était dans ce si bel article, il était montré qu'il avait été le cocu de la République, c'est que lui avançait sur le terrain, il faut bouger, il ne faut pas rester dans cette fixité. Il réclamait le droit de vote pour les populations immigrées. C'était extrêmement... moderne, enfin avant-gardiste à son époque. Vous voyez, et c'est ce mouvement-là que la République n'arrive pas à faire tellement qu'elle est dans ses valeurs refuges historiques qui lui semblent être très nobles et qui l'empêchent, qui l'aveuglent. Hein. L'aveuglement, ce n'est pas l'aveuglement, c'est pas le color blindness, hein, c'est le républicain blindness. Hein.
Merci.
Voilà, tu peux peut-être ajouter quelque chose, non?
Moi, je veux bien intervenir, effectivement, très rapidement, juste pour dire que cette difficulté, ce n'est pas seulement celle de l'État. Le Memorial Act se situe en quelque sorte sur le lieu, en fait, sur le territoire même de la plantation, si on considère que la Guadeloupe entière porte les stigmates et symbolise donc la plantation. Et on peut voir sur cette question de l'évolution des enjeux mémoriels que depuis 20 ans, il y a des soubresauts permanents, des psychodrames aussi assez réguliers. Et la crise du MAC est un des énièmes psychodrames. Et je crois que cette crise, elle devrait être analysée par les chercheurs parce qu'il y a énormément de choses intéressantes qui en ressortent. Et donc, cette difficulté, elle n'est pas seulement celle de l'État, elle est aussi celle du corps social porteur de cette mémoire-là. Nous, chaque fois qu'on travaille avec un artiste contemporain en résidence, on a une crise. Donc, la crise Tomarel, elle a été retardée. La deuxième résidence, c'était Ronald Cyril. Donc là, je n'ai pas le temps de montrer les images. Et ça a aussi créé une énorme crise. Donc, dès qu'on touche à un clou dans l'exposition permanente. Et ça, cette crise, elle vient en général des politiques, parce que la question de l'esclavage, elle est fortement instrumentalisée. Et des choses qui vont être acceptées par le public vont être tellement instrumentalisées par les politiques que finalement, le public va aussi les rejeter. Et donc, des pratiques qui seraient dans un musée en Europe tout à fait immédiates, comme disait Dominique, de travail avec un artiste contemporain, en Guadeloupe, ça devient le psychodrame. Et ça, je crois qu'il y a vraiment aussi là-dessus, cette difficulté-là, elle est aussi à prendre en compte.
Merci. Le temps est un peu dépassé, déjà 10 minutes, donc on va peut-être s'arrêter là, à moins que quelqu'un veuille absolument dire quelque chose de vital. Sinon, c'était passionnant.